الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو الثالث من شهر ذي القعدة عام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المجلس هو المجلس الثاني عشر من كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 6 août 2016 et ceci est le 12e cours de l'étude du livre de l'unicité de l'auteur Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Nous nous sommes arrêtés à la fin du chapitre l'appel à la ilaha illallah. Nous avons étudié ces versets et les textes présents sous ce chapitre. Maintenant, l'auteur, après avoir parlé de cela, passe à ce chapitre Bab tafsir al-tawhid wa shahadati an la ilaha illallah. Chapitre explication du tawhid et de l'attestation qu'il n'y a de divinité méritant réellement l'adoration qu'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Quel lien il y a, munasabatul bab, l'ikitab et tawhid, entre ce chapitre et kitab et tawhid, l'écrit en lui-même? La réponse est très simple. L'auteur, rahimahullah ta'ala, dans cet écrit, nous parle du tawhid et nous explique ce qu'il est. Il nous montre la définition, le sens, la réalité du monothéisme. Le chapitre que nous étudions ici porte sur l'explication du tawhid et sur l'explication de la ilaha illallah. Il convenait donc que l'auteur mentionne ce chapitre dans cet ouvrage Kitab al-Tawhid, puisqu'il est un ouvrage traitant du Tawhid lui-même. Ça, c'est le lien qu'il y a entre ce chapitre et l'écrit. Munasabatul bab ilima qabla, le lien qu'il y a entre ce chapitre et le chapitre précédent, c'est la chose suivante. Après que le cheikh a cité l'appel à la ilaha illallah, il veut nous enseigner que ne peut appeler à la ilaha illallah que celui qui est connaisseur du sens de la ilaha illallah, et qu'il faut avoir le savoir avant de prêcher et d'enseigner. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala a dit: munasabatu hadha al-bab lima qablahu zahira, le lien qu'il y a entre ce chapitre et le précédent est clair, est apparent. Car le chapitre précédent, Bab al-Du'a'i ila shahadati an la ilaha illallah, chapitre l'appel au témoignage la ilaha illallah. Wa hadha al-bab fi tafsir hadhihi al-kalima wa bayan ma'naha. Et ce chapitre a été cité pour expliquer, clarifier le sens de cette parole à laquelle on est invité d'appeler les gens. Li anna alladhi yad'u ila shay'in وَيَطْلُبُ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَفْعَلُوهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَهُ لَهُمْ. Car l'individu qui invite autrui, qui appelle les gens à le suivre dans une chose qu'il leur demande de faire, se doit de leur montrer la réalité de cette chose et leur expliquer ce qu'elle représente. وَيُوَضِّحَهُ لَهُمْ تَوْضِحًا تَامًا. Et il doit clarifier cette chose comme il se doit. ولا يكتفي بمجرد أن يقول للناس قولوا لا إله إلا الله. Il ne doit pas se contenter de dire aux gens dites la ilaha illallah. Car comme vous allez le voir dans ce chapitre, la simple prononciation de cette parole n'est pas suffisante pour faire de la personne qui la prononce quelqu'un de croyant accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Certains pourraient dire: le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit aux gens, Ayyuhannas, Qulu la ilaha illallah tuflihu, ô vous les gens, dites la ilaha illallah et alors vous réussirez. C'est donc la même chose que nous faisons. Nous disons aux gens de dire la ilaha illallah. La réponse nous est donnée par le Cheikh. Wa amma anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam qala lil mushrikin qulu la ilaha illallah wa qala umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa li anna al-mushrikin ya'rifuna ma'na hadhihi al-kalima li'annahu لما قال لهم ذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا وكثير من الناس لا يعرفون معناها بدليل أنهم يقولونها ويدعون غير الله من الموتى وغيرهم. الشيخ صالح الفوزان nous dit, certes le prophète صلى الله عليه وسلم a dit aux gens, dites لا إله إلا الله, mais il leur a dit de prononcer cette parole seulement à ce passage-là, dans ce hadith, car les gens à qui il s'adresse connaissent le sens de la ilaha illallah. La preuve en est, ils ont dit comme réponse ce que l'on retrouve dans les premiers versets de Surat Sad, dans la traduction rapprochée, va-t-il réduire nos divinités à une divinité unique? Voici là une chose étrange. Ils ont donc compris que la ilaha illallah signifie réduire toute l'adoration, toutes les divinités pour une, Allah seul subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, dites la ilaha illallah. C'est-à-dire, vous qui avez compris cette parole, il ne vous reste plus qu'une chose, la prononcer. Quant aux gens de notre époque, malheureusement, ils ont besoin non seulement de prononcer cette parole, mais d'en connaître le sens. Car beaucoup de gens à notre époque ne cessent de prononcer cette parole, mais on retrouve dans leurs actes des formes de polythéisme. Ils se dirigent vers les morts, ils se dirigent vers tout autre qu'Allah, en les implorant comme on implore Allah. Subhanahu wa ta'ala. Aw yaqula lin-nas udkhulu fil-islam, bal la budda an yubayyana lahum ma'na la ilaha illallah. Il n'est pas suffisant non plus de dire aux gens, entrez dans l'islam. Entrez dans l'islam. Il faut exposer aux gens ce qu'est l'islam dans sa réalité, avec ses fondements, avec ses branches. Et le plus grand de ses fondements, c'est la parole du tawhid. Donc, il nous dit aussi wa an yubayyana lahum ma'na al-islam alladhi yad'uhum ilayh wa la budda ma'a dhalika an yubayyana lahum ma yunaqidu al-islam. Il faut donc montrer aux gens la réalité de l'islam à laquelle on les invite, tout comme il faut leur enseigner les actes annulatifs de l'islam. Il faut aussi montrer ce qui annule cette parole et ce qui rend caduque les actes de la personne. C'est ce dont on a parlé dans le chapitre précédent. Al-da'watu bit-tafsil, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala en détail. Car les gens de la sunna, dans leur prêche, appelle à Allah en détail. De temps en temps, il se peut que pour un intérêt qu'ils ont jugé bon, ils emploient des termes généraux. Mais la base chez les gens de la sunna, c'est l'appel en détail, de clarifier telle chose qui est demandée par Allah et telle autre chose qui est interdite par Allah. Le jugement de tel acte, le jugement de celui qui commet cet acte et le jugement de tel interdit et de celui qui le commet. Les gens de la sunna clarifient et détaillent la science à laquelle ils invitent les gens. Et c'est à cause du prêche global, simple, général, que les gens n'ont plus connu le chemin à suivre. Si on se contentait de dire aux gens, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lisez le Coran, ce sont des paroles qui sont répétées par les adeptes de toute tendance confondue. Chaque tendance, même ceux qui sont sortis de l'islam, comme Al-Batiniya, Al-Rawafid, Al-Ahmadiyya, et tous ces groupes qui ne sont même pas musulmans, ils disent, nous appelons au Coran, nous appelons à la sunna. Mais ce qu'il faut, c'est détailler, afin que les gens connaissent la réalité de l'islam. Et cela passe par la compréhension de la ilaha illallah. Voici donc l'importance de ce chapitre. Et c'est le lien qu'il y a entre ce chapitre et le chapitre précédent. Et le Cheikh Saleh Al-Fawzan a aussi cité des personnes qui tentent de prêcher, qui s'investissent dans ce domaine et qui en réalité, ils ne connaissent pas le sens de la ilaha illallah. Et c'est un constat qui est réel et véridique jusqu'à nos jours et à notre époque, lorsqu'il est dit à l'un d'entre eux, quel est le sens de la ilaha illallah? Il te dit, ikhrajul yaqin il fasid wa idkhalul yaqin il sadiq, faire sortir la mauvaise certitude du cœur pour mettre à sa place la véritable certitude. Ça, c'est l'explication, par exemple, donnée par Jama'atut Tabligh, le groupe des Tabligh qui sortent 40 jours, 4 mois, 10 jours, 3 jours, etc. À quoi est-ce que l'on peut appeler dans l'islam, alors qu'on ignore même le fondement essentiel qui fait la marque de l'islam? À rien. Parce qu'Allah n'accepte aucune œuvre quand celle-ci n'est pas basée sur la ilaha illallah. Comment baser ses œuvres sur la ilaha illallah si on lui donne un sens erroné? Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a cessé d'inviter les gens à cette parole en montrant le sens et ce qu'elle implique comme action, comme parole, comme conviction. Et c'est le sujet de ce chapitre. Cheikh Saleh Al-Fawzan nous parle de ces gens en nous disant que pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pour ambition que de réunir derrière eux un nombre de gens. Ils réunissent. يُجَمِّعُونَ النَّاسِ. Ils réunissent les gens. Certes, en apparence, un grand nombre de gens peuvent être réunis. Mais est-ce que c'est ce qui est agréé par Allah, subhanahu wa ta'ala? Et quand est-ce que le nombre a été un gage de vérité dans le Coran et la Sunna? La réponse, jamais. Tout au contraire, quand Allah nous parle de la majorité dans le Coran, ce n'est que pour la blâmer. Ce n'est que pour la blâmer. Il n'y a pas un verset du Coran qui parle de la majorité des gens sans qu'il ne s'agisse d'un blâme qui leur est dirigé. Et les hadiths aussi dans ce sens sont très nombreux. Comme on a vu dans le hadith du chapitre précédent, quand Ali radiallahu anhu a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit « ثُمَّ دْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ » Puis, invite-les à l'islam. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ. Et informe-les de leur devoir envers Allah dans celui-ci, c'est-à-dire dans l'islam. Donc, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a eu l'ordre de prêcher et de leur détailler et de leur donner les détails de cette parole. Le mot tafsir, c'est al-kashfu wal-idah, c'est-à-dire le fait de d'éclairer et de clarifier. Il s'agit bien sûr ici de clarifier le sens de la ilaha illallah. D'où le terme tafsir al-Qur'an, al-kashfu ma'ani, c'est-à-dire le fait de clarifier les sens de ce terme, pardon, de ce livre, le Qur'an. Le premier verset cité ici par l'auteur, rahimahullah, wa qawli Allah ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabah. Jusqu'à la fin du verset. Traduction approchée: ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes le moyen qui se rapprochera le plus, à qui se rapprochera le plus de son Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer at-tawhid, le sens du tawhid, dans une de ses formes, dans une de ses adorations. Car en réalité, certains pourraient se dire, n'est-ce pas que l'auteur, dans le premier chapitre, a montré ce qu'est le tawhid? Pourquoi a-t-il cité ici un chapitre encore pour nous expliquer le tawhid, alors que c'est le sujet même du premier chapitre? La réponse est que dans le premier chapitre, il a expliqué le tawhid de manière générale. Le tawhid, c'est le fait d'adorer Allah. Dans ce chapitre, il va nous donner des formes de mise en pratique du tawhid. Donc c'est plus détaillé. Ce n'est donc pas ni une contradiction, ni un hors-sujet, loin de là. Ainsi, le cheikh a cité donc ce verset, le verset qu'on le retrouve dans Suratu Al-Isra. De quoi s'agit-il ici? Le cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, nous dit, « Qala jumhur al-mufassirin » La majorité des savants exégètes qui ont commenté le Coran ont dit, إن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح وأمه وعزيرا فبين الله سبحانه أن هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي يدعونني. Cette majorité de savants a dit qu'il s'agit dans ce verset de gens qui adoraient et vouaient le culte à Isa عليه السلام, sa mère Maryam et Uzair. Allah subhanahu wa ta'ala a montré à ces gens que ceux à qui vous vouez le culte et ceux que vous adorez ne sont que de mes serviteurs, ne sont que des serviteurs parmi mes serviteurs. Eux-mêmes m'invoquent. Hum fuqara ilay yad'unani. Ils ressentent le besoin de moi. Ils m'invoquent. Wa yataqarrabuna ilayya bitta'a. Et ils se rapprochent avec moi par l'obéissance. Fahum ibadi, ibadun min ibadi. Ils font donc partie de mes serviteurs. Wal abdu la yasluhu an yakuna ma'buda. Et en aucun cas, le serviteur peut passer au statut de celui qui est adoré, car lui-même est un adorateur. Walaysa hunaka fis samawati wal ard illa man huwa 'abdun lillah. Et il n'y a dans les cieux et sur la terre que celui qui est un serviteur d'Allah. Il n'existe que des créatures d'Allah, que des faibles serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans sourate Maryam, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne viendront au tout miséricordieux qu'en serviteur. Nous sommes donc tous des serviteurs d'Allah. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à des gens qui vouent l'adoration, qui est ici l'invocation, à des autres qu'Allah. Malgré leur piété, Isa alayhi salam, sa mère, cette femme pure, Uzair, et en réalité, comme les savants le disent, cela implique ou comprend aussi toute personne pieuse qui est adoré en dehors d'Allah. Allah s'adresse à ceux qui leur vouent le culte dans ce verset en leur disant, ô vous qui vouez le culte à ces pieux, sachez qu'eux-mêmes m'adorent. Ils espèrent ma miséricorde. Ils craignent mon châtiment. Ils ont peur de leurs éventuels manquements envers moi. Ils ont peur de ma colère. Eux-mêmes m'invoquent. Comment allez-vous donc vous diriger vers ceux qui sont faibles et qui m'invoquent? C'est pour cela qu'Allah les a réprimandés. Et pour mieux comprendre, il faut lire le verset précédent. Le verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ اِدْعُوا الَّذِينَ تَدْعُوا قُلْ اِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Dit, dans le sens rapproché du verset, dit invoquez donc ceux que vous prétendez en dehors d'Allah, c'est-à-dire que vous prétendez être des divinités qui méritent d'être adorées en dehors d'Allah. Ils ne possèdent même pas le pouvoir de dissiper le mal qui vous a touché, non plus de le changer. Donc, ceux qui... فلا يملكون فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا جزاك الله خيرا. Donc ils ne possèdent même pas le pouvoir de dissiper le mal, non plus au minimum, puisqu'ils ne peuvent pas le dissiper, le changer, le faire passer d'un état à un autre. Ils ne peuvent même pas le faire. Plus encore, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ, jusqu'à la fin du verset. Ceux-là invoquent leur Seigneur et cherchent le meilleur moyen de se rapprocher de lui. Donc, si la situation de cette créature est comme telle, elle-même n'a pas la capacité de dissiper le mal, ni même au minimum de l'alléger, de le changer. Plus encore, cette personne qui est adorée en dehors d'Allah a besoin d'Allah, invoque Allah, craint Allah. Il ne faut invoquer qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce verset nous montre donc le tawhid dans ad-du'a. Le tawhid, l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans l'invocation. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, a dit: قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Dans le sens rapproché du verset, dit: informez-moi de ce que vous adorez, ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Si Allah me voulait un quelconque mal, serait-il capable de le dissiper? Et s'il me voulait une quelconque miséricorde, serait-il capable de l'en empêcher? Dis: Allah me suffit. Et c'est en Allah que ceux qui placent leur confiance la placent. Subhanahu wa ta'ala. Quant au terme ici, al-wasila, le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit: dans le sens linguistique, fil asl, huwa sababu alladhi yuwassilu ila al-maqsud. Fa sababu alladhi yuwassilu ila al-maqsud yusamma wasila. Dans le sens linguistique, le terme ici arabe wasila, qui pourrait être traduit comme le moyen, est la cause utilisée pour arriver à un but recherché. La cause utilisée pour arriver à un but recherché. Si l'un d'entre vous voudrait se rendre dans cette mosquée et que l'autre lui disait: quelle wasila as-tu utilisé? Il lui répondra: la voiture. C'est la cause qu'il a utilisée pour arriver à son but, qui est de venir ici. Ça, c'est dans le sens linguistique. Dans le sens religieux, wa amma ma'naha huna فَالْوَسِيلَةُ الطَّاعَةُ وَالْقُرْبِ. C'est l'obéissance et la proximité avec Allah. C'est-à-dire que l'on parle ici du moyen de se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. فَالْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعُزَيْرٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْأَوْلِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ. Donc, كلهم يتقربون إلى الله بالطاعة يعبدون الله لأجل أي شيء أيهم أقرب كل واحد يرجو أن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى يتقربون إليه بطاعته ويرجون رحمته ويخافون عذابه فدل على أنهم عباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى يرجون رحمة الله لأنهم بحاجة إليها ويخافون عذاب الله أن ينزل بهم إذن هم لا يستطيعون أن يجلبوا لأنفسهم النفع ولا يستطيعون أن يدفعوا عنها الضرر فكيف يملكون ذلك لكم يا من تعبدونه. Le Cheikh Salih al-Fawzan nous a expliqué clairement ce verset en lui disant que les anges, qui peuvent être aussi adorés en dehors d'Allah, Isa alayhi salam, Uzair, ou même les pieux, les vertueux, que l'on dit être proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux tous recherchent le moyen de se rapprocher d'Allah. Ils l'adorent. Pour quelle raison? Chacun recherche le meilleur moyen de se rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. Également, ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Ce verset nous montre donc que ces gens-là sont dans le besoin d'Allah, ils sont ses serviteurs. Comment pourraient-ils être adorés alors qu'ils ne sont pas capables de dissiper le mal, ni même de l'alléger, ou alors de changer son état, comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala. Et c'est donc la parole qui est dirigée à toute personne tentée par l'adoration d'autre qu'Allah, comme des gens qui sont enterrés et qui sont prétendus être saints. Peut-être qu'il s'agit de véritables personnes pieuses et vertueuses, mais qui n'ont jamais demandé à être adorées en dehors d'Allah. Le prophète même, sallallahu alayhi wa sallam, ou d'autres parmi les messagers, ou d'autres parmi des gens qui sont pieux. Et ça, c'est ce que l'on retrouve aujourd'hui dans la terre d'Allah. Et on le retrouve énormément dans bon nombre de pays. Lorsqu'il y a dans un village quelqu'un qui était connu pour être au service des habitants de ce village, il partageait, il offrait ses services à celui qui en avait besoin, il leur donnait, il faisait des aumônes. Quand cette personne a quitté ce bas monde, les gens du village n'ont rien trouvé d'autre à faire que de bâtir un édifice sur sa tombe, vers lequel ils se rendent pour lui demander en dehors d'Allah ce que seul Allah est capable de donner, subhanahu wa ta'ala. Puis les gens se sont aggravés, approfondis dans ces pratiques, jusqu'à même pour certains endroits dire que celui qui se rend vers cet endroit est exempté d'aller à la Mecque. Est-ce que vous entendez bien ça, aux musulmans? On dit qu'il y a certains endroits, si on s'y rend, le pèlerinage à la Mecque n'est plus obligatoire. On dit que si l'on va à Touba, dans la tombe de Ahmad ou Bamba, on n'a plus besoin d'aller à la Mecque. On dit que si l'on va à Fès, dans la tombe de Ahmad al-Tijani, on n'a plus besoin d'aller à Mecca pour le Hajj. Et alors qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, le verset où Allah ordonne le Hajj, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et pour Allah, il est un devoir d'aller accomplir le pèlerinage pour celui qui en a la capacité. Eux disent, si tu as été à la tombe de tel et tel, tu n'as plus besoin. Donc, c'est une réalité. Et seul quelqu'un qui soit est aveugle, ignorant, ou alors a le cœur rempli de passion, peut renier ce fait qui est avéré et qui est réel. Et les gens de la sunna mettent en garde contre des choses, même si elles peuvent avoir lieu dans des endroits éloignés. Car tant qu'ils vivent, ils propagent ce qu'Allah aime que l'on propage et ils appellent à Allah. Et n'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre l'innovation avant même qu'elle n'existe? وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ وَكُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ etc. Avant même que l'innovation existe, il met en garde contre elle. Car tant que l'on se remémorise le savoir, on se protège. Et comme on va voir dans un chapitre, vous allez voir que le polythéisme n'est arrivé sur terre que quand les gens ont délaissé la connaissance et sa propagation. Comme on le verra au moment, Inch'Allah, venu. Donc ça, c'est le premier verset. Certains disent, donc ces gens-là cherchent des arguments pour légitimiser leurs actes. Ils disent, on n'adore pas ces gens en dehors d'Allah. Simplement, on leur voue ces cultes, ces actes d'adoration, afin qu'ils nous rapprochent d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah le dit dans de nombreux versets, parmi lesquels, en sourate Yunus, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut les nuire ni leur tirer profit, et disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. C'est-à-dire, on ne les adore pas. On sait qu'Allah est le créateur, Allah est le pourvoyeur, mais on voue ses offrandes, on fait ses sacrifices à ces individus, car ils ont une proximité avec Allah. Et eux vont remonter notre demande à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est donc qu'une intermédiaire que nous utilisons. Wal'iyadu billah. Allah lui-même a jugé cet acte comme étant du polythéisme, car il a dit wa ya'buduna min dunillah, et ils adorent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qui ne peut ni les nuire ou leur tirer profit. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا, et ceux qui ont pris en dehors de lui des alliés, مَا نَعْبُدُهُمْ أَيَّقُولُونَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَا, disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. C'est exactement ce que les adorateurs des tombes disent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'Allah a répondu? إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, Allah jugera entre eux dans leur divergence. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ, Allah ne guide pas celui qui est menteur et mécréant. Al-Sheikh Salih a dit اتخذوا الوسائط من الأولياء بزعمهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفا, ils ont donc pris ces intermédiaires parmi ces alliés, ces pieux, ces saints qu'ils ont prétendu, pour qu'ils les rapprochent d'Allah. أو يشفعون لهم عند الله, ou intercèdent en leur faveur auprès d'Allah. فعبدوهم من دون الله, ils les ont adorés en dehors d'Allah. فصرفوا العبادة للمخلوقين من أجل أن المخلوقين يتوسطون عند الله سبحانه وتعالى. Ils ont donc voué l'adoration aux créatures afin que ces dernières les fassent remonter à Allah. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Et ça, c'est ce que l'on voit malheureusement. Le Cheikh Salih Al-Fawzan a dit وَهَذِهِ الْآيَةُ الْأُولَى فِي الْبَابِ, dans ce premier verset de ce chapitre, تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ أَلَّا يُصْرَفَ الدُّعَاءُ وَالتَّقَرُّبُ وَالْعِبَادَةُ أن يصرف الدعاء والتقرب والعبادة لله سبحانه وتعالى, que l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah, l'invocation, et on ne doit se chercher à se rapprocher que d'Allah تبارك وتعالى. لا تصرف لأحد من خلقه بحجة أنه واسطة بين العبد وبين ربه, et on ne doit en aucun cas vouer un culte à une créature en prenant comme argument que cette créature n'est qu'une intermédiaire entre nous et notre Seigneur. Car dans l'adoration, dans la vocation, il n'y a pas d'intermédiaire. لأن الله ليس بينه وبين عباده واسطة من هذا النوع. الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى a attiré l'attention sur quelque chose que l'on retrouve dans le Coran. Cette chose est la suivante. On voit souvent des versets où Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant yas'alunak, il t'interroge sur telle et telle chose. Yas'alunaka 'anir ruh, il t'interroge sur l'esprit. Qul ar-ruhu min amri rabbi, dit l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, il t'interroge sur les vins et le jeu de hasard, dit il s'y trouve un grand péché et des utilités pour les gens, mais le péché est bien plus grand que ses utilités. Yas'alunaka 'anil anfal, qul lil anfal lillahi war rasul, il t'interroge sur le butin, dit le butin est à Allah et à son messager. Et il y a énormément de versets. À chaque fois, Allah tabaraka wa ta'ala utilise le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en fait une intermédiaire dans la transmission du message. Yas'alunaka qul li'annaka anta al-wasita fi tablighi al-wahy. Na'am, hula anta wasita. Il t'interroge sur telle chose, dit, puis Allah lui informe de ce qu'il doit dire. Car à ce moment-là, oui, il est une intermédiaire, sallallahu alayhi wa sallam, mais non pas dans l'adoration, mais dans la transmission du message. Pour avoir la révélation, on a eu besoin de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, dans l'ibada, dans l'invocation, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans surat al-Baqarah, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي الْآنِ قال تعالى فإني قريب تولى الإجابة ولم يأمره أن يقول فإني قريب لا واسطة بيني وبينك بيني وبين عبادي في الدعاء والعبادة. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jalla dit: et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, remarquez, dans le sens du verset, Allah répond: je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Pourquoi ici Allah n'a pas dit « قول » « dit » Car ici, il ne s'agit pas de la révélation. Il s'agit de l'adoration. À ce moment-là, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est Allah qui se charge de répondre directement. « Je suis tout proche, je vous réponds. » Donc dans l'adoration, on ne prend même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment pourrait-on prendre quelqu'un qui est bien moindre que lui dans le rang? Par contre, dans la transmission du message, il est l'intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. Le deuxième verset, وَقَوْلِهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dans ce deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que Ibrahim alayhi salam, ce noble prophète, s'est dirigé à son père, vers son père et son peuple, et leur a dit la chose suivante. Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple: je me désavoue totalement de ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, il me guidera certes. Et il en a fait une parole qui perdure. Dans sa descendance ainsi reviendront-ils. Ce verset également nous enseigne le sens de la ilaha illallah. Ibrahim alayhi salam a été appelé Abul Anbiya, car tous les prophètes qui sont venus avec lui sont issus de sa descendance, que ce soit de Ishaq, tous les Banu Israël parmi les prophètes, et même de Ismaïl, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim est le deuxième messager le plus aimé d'Allah après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons parlé dans un chapitre passé de son rang, du rang qu'il occupe chez Allah et de la place qu'il a auprès de son maître suprême, Allah le créateur, subhanahu wa ta'ala. Ce prophète s'est adressé à son peuple qu'il a invité à la ilaha illallah justement. D'ailleurs, vous remarquez que l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit bab tafsir at-tawhid wa shahadati an la ilaha illallah, chapitre l'explication du tawhid et du témoignage de foi la ilaha illallah. Puis il ne s'est pas du tout exprimé. Il s'est contenté de citer des versets et un hadith. Quatre versets et un hadith. Car les gens de la sunna utilisent les paroles du Coran et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer la religion d'Allah aux gens, subhanahu wa ta'ala. Et il y a dans le Coran des versets qui sont très clairs, qui démontrent, qui enseigne le sens de la ilaha illallah, parmi lesquels celui-ci. Ibrahim a dit à son père ainsi que son peuple: je me désavoue totalement de ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, fatarani, c'est-à-dire khalaqani, celui qui m'a créé sans précédent. Ibrahim alayhi salam nous enseigne ici la ilaha illallah. La ilaha, on le retrouve dans la parole innani bara'un mimma ta'budun, atabarra'u mimma ta'budun, je me désavoue de ce que vous adorez. C'est exactement le sens de la première parole la ilaha, qui est une négation, le premier pilier de la parole du tawhid. illa alladhi fatarani, à l'exception de celui qui m'a créé. C'est exactement le sens de illa Allah, subhanahu wa ta'ala. Également, Ibrahim a dit illa alladhi fatarani, à l'exception de celui qui m'a créé, car celui qui m'a créé est celui qui doit être adoré. Il s'adresse à ces gens et leur dit, celui qui m'a créé, comme vous le savez, et qui vous a créé, n'est-ce pas qu'il est le seul à mériter cette adoration? Donc ici, on voit dans ce verset l'explication du tawhid et l'explication de la ilaha illallah. Et ce peuple, c'est celui auquel a été envoyé le prophète Ibrahim, alayhi as-salam. Il s'est donc désavoué d'eux. Innani bara'un, ou alors, on peut dire bari'un, dans le verset ici c'est bara'un, mais bari'un, ces deux termes ont le même sens. C'est-à-dire que tu te désavoues d'une chose. C'est pour cela que celui qui guérit de la maladie, on dit bara'a ou bari'a. Parce qu'à la base, ce terme signifie d'être loin d'une chose. Donc celui qui a guéri grâce à Allah, qu'est-ce qu'on a vu dans le hadith de Ali ibn Abi Talib, quand il avait la conjonctivite, ramad, dans les yeux, فَبَرَأَ فَبَرِئَ كَأَلْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعَ. Il a guéri comme s'il n'avait plus de douleur. Quel est le terme qui a été utilisé? بَرِئَ. On retrouve ces mêmes lettres. Pourquoi? Parce que la maladie s'est éloignée de lui. Ibrahim alayhi salam dit à son peuple, je me désavoue, je suis innocent de vous, de vos actes, je suis loin de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, à l'exception de celui qui m'a créé. Mimma ta'budun, le Cheikh Salih al-Fawzan a dit, يعني mimma ta'budun min al-asnam wal-kawakib wa ghayriha, wa hadha tahaddin lahum, تحدى آلهتهم وتبرأ منها ولو كانت قادرة لانتقمت منه لأنه يتبرأ منها على رؤوس الأشهاد ويكفر بها ومع ذلك لا تمسه بسوء هذا دليل على بطلانها. صالح الفوزان a dit que quand Ibrahim alayhi salam a dit à son peuple, je me désavoue de ce que vous adorez en dehors d'Allah, il s'agit ici des astres, car le peuple d'Ibrahim adorait les astres. Je me désavoue, c'est aussi une façon de leur lancer un défi. Vous voyez que je me désavoue devant vous de vos divinités. Si vos divinités étaient puissantes, elles se seraient vengées de moi immédiatement. Si elles méritaient l'adoration, si elles étaient puissantes, elles auraient été dans la capacité de se venger de moi, ce qui n'est pas le cas. Me voici debout devant vous à me désavouer d'elle, et je suis sain et sauf, et je n'ai rien. Donc, si ces divinités n'ont pas le pouvoir d'abattre celui qui les prend en défi, comment pourrait-elle être adorée en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Disons la même chose pour ceux qui adorent des gens dans les tombes. Si quelqu'un dit ici, je me désavoue de l'adoration de Tijani, est-ce qu'il va être touché par quelque chose? Et malheureusement, vous ici qui avez la fitra, vous dites non. Mais par Allah, il existe des gens qui pensent que si tu dénigres, ne serait-ce que par un mot qui n'est pas adéquat pour qualifier ce genre de personne, il peut t'atteindre d'un mal. Wal-iyadu billah. Et pour les arabophones, je vous conseille de lire le livre du Cheikh Taqiyuddin al-Hilali intitulé Al-Hadiyatu al-Hadiya et Ta'ifati Tijaniya. Vous allez voir un peu, il raconte dans ce cadeau qu'il a offert à ce groupe le vécu qu'il a eu, car il en faisait partie quand il était jeune, avant de devenir un imam du Tawhid et de la Sunna. Il raconte des choses qui sont étonnantes. Ce que les gens sont capables de croire quand il s'agit de choses fausses est incroyable. Alors que quand il s'agit de choses vraies, qui sont simples, Ash-Shaytan enjolive le faux. Wal-iyadu billah. Illa alladhi fatarani yani khalaqani. Fal-fatru ma'naahu ibtida'u al-khalqi min ghayri mithalin sabiq. Falam yatabarra minhu li'annahu rabbuhu وحده لا شريك له. Ibrahim alayhi salam se désavoue de l'adoration de toutes ses idoles à l'exception de l'adoration d'Allah, car il est son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Puis il a dit, وَجَعَلَهَا, car en tout cas dans l'écrit que j'ai dans mes mains, il n'y a pas la suite du verset, وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً, et il en a fait une parole qui perdure, une parole continuelle, فِي عَقِبِهِ, dans sa descendance, dans sa postérité, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ainsi reviendront-ils. Les savants sont unanimes pour dire qu'il s'agit ici, lorsque l'on parle de la parole qui perdure, la parole qui va rester, pour dire qu'il s'agit de la ilaha illallah. Ibrahim a laissé à son peuple cette parole qui n'a cessé de perdurer jusqu'à nos jours. Et Ibrahim alayhi salam a toujours eu des suiveurs jusqu'à nos jours. Comme le dit le cheikh, hafidhahullah ta'ala, فلا يزال فيها من يقول هذه الكلمة ويعمل بها إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم بها ودعا إليها. Les gens n'ont cessé de mettre en pratique cette parole, d'y inviter les gens, jusqu'à l'envoi du prophète صلى الله عليه وسلم محمد. بقيت في عقبه. Cette parole a perduré dans la descendance d'Ibrahim. وإن خالفها الأكثر, malgré l'opposition de la majorité des gens. Il a annahu yujadu fi dhurriyyati Ibrahim alayhi salam man iltazama biha walau kanu qalilin. Il montre qu'il y a toujours eu des gens, même s'ils sont une minorité, qui ont suivi cette religion. Et là, il va nous donner une leçon par Allah. C'est quelque chose d'immense, qui vous montre la puissance du tawhid, la grandeur du tawhid, l'importance du tawhid. Il nous dit فَلَمْ تَخْلُوا الْأَرْضُ مِنَ التَّوْحِيدِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَا تَخْلُوا إِلَّا عِنْدَ قِيَمِ السَّاعَةِ وَإِذَا خَلَتِ الْأَرْضُ مِنَ التَّوْحِيدِ قَامَتِ الْقِيَامَةِ كما في الحديث لَا تَقُومُ السَّاعَةُ وفي الأرض من يقول الله الله لأن الأرض لا تبقى إلا مع التوحيد لأن لا إله إلا الله كلمة قامت بها السماوات والأرض ونصبت من أجلها الموازين وأسست الملة وفرض الجهاد من أجل لا إله إلا الله فهذه الكلمة لا تزال لكن أحيانا يكثر أنصارها والقائمون بها وأحيانا يقلون إلا أنهم لا ينعدمون إلا عند قيام الساعة حتى ولو كثر الشرك فإنه يكون في الأرض من يعبد الله وحده لا شريك له إلى قرب قيام الساعة. Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit dans ce passage que il y a toujours sur terre des gens qui ne cesseront de prononcer cette parole et bien sûr de la mettre en pratique jusqu'à peu de temps avant l'heure dernière, avant la fin des temps. C'est à ce moment-là que les gens cesseront d'exprimer et de pratiquer le monothéisme, l'unicité d'Allah. Et dans un hadith qui est rapporté par l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La taqoumu sa'a wa fil ardi man yaqul Allah, Allah » L'heure ne retentit pas tant qu'il y a sur terre des gens qui disent « Allah, Allah » Dans une riwaya, لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. L'heure ne viendra que lorsque l'on ne dira plus sur terre Allah Allah. Cheikh Saleh Al-Fawzan a dit dans son livre Al-Irshad ila Sahih Al-I'tiqad, l'orientation vers la croyance correcte, quand il a expliqué ce hadith, il a dit cela montre que la chose qui fait rester la terre et qui la fait perdurer, c'est l'existence et la présence en son sein du tawhid. Et le jour où les gens arrêteront de dire Allah, Allah, et ne manifesteront donc plus le tawhid, à ce moment-là, il n'y aura plus aucune utilité à ce que la terre perdure, et alors, Allah fera son et leur. Est-ce que vous... Allahu Akbar. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التوحيد وأهل السنة ويميتنا على التوحيد والسنة. إذا انعدم التوحيد قامت القيامة. فما الذي يبقي الأرض؟ ما الذي يبقيكم معشر الناس؟ كون بعض الموحدين يوحدون الله في الأرض. Quand les gens vont arrêter de manifester le tawhid, la terre va disparaître. Qu'est-ce qui maintient la terre avec les péchés de tous ces gens? Le shirk, le bid'a, le kaba'ir, les péchés majeurs. C'est qu'il y a encore des gens sur terre qui adorent Allah seul. Subhanallah. C'est ça qui fait que vous mangez le risque et vous buvez et vous jouissez des bienfaits d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. La'allahum yarji'un. Ainsi reviendront-ils. قال الشيخ عبد الرزاق البدر هذا دليل على أن هذه الكلمة عصمة لمن قالها. Ainsi reviendront-ils. C'est une preuve que celui qui prononce cette parole et qu'il donc la met en pratique, en connaît le sens, la propage et tout ce que cela implique comme obligations, ce sera pour lui une protection, puisqu'Allah a dit لعلهم يرجعون. Ainsi reviendront-ils. Ils reviendront vers cette parole. قال الشيخ الفوزان يرجعون إليها ويحققونها وهذا حاصل والحمد لله. C'est-à-dire peut-être ils reviendront à cette parole et la concrétiseront. Et cela a bien lieu et la louange est à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le verset. طيب. دلت هذه الآية على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله البراءة من الشرك وإفراد الله تعالى بالعبادة فهي تفسر لا إله إلا الله. Ce verset nous montre que fait partie du tawhid de se désavouer du polythéisme et des polythéistes, donc de l'action et des acteurs également, et de n'adorer qu'Allah seul. Troisième verset. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Dans le sens de ce verset de sourate At-Tawbah, le repentir, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que Isa, ainsi que le Messie, le fils de Maryam, alors qu'il ne leur a été ordonné que de n'adorer une seule divinité. Nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté lui, exempt soit-il de ce qui lui associe. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans ce verset des gens du livre, qui sont al-Yahoudou wa al-Nasar, Ahlul Kitab, les juifs et les chrétiens. Comment est-ce que ces gens ont agi? De la manière suivante. Ils ont pris leur rabbin et leur moine. Les deux termes en arabe sont ahbar et rohban, qui sont deux pluriels. Ahbar est le pluriel de habrun et rohban est le pluriel de rahib. Al-habr, c'est le savant. C'est pour ça que Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, est appelé habrul umma, le grand savant de la communauté. Al-habr huwa al-alim al-wasi'u 'ilma. C'est le grand savant, celui qui a la connaissance très vaste. Et al-rahib huwa al-'abid. Et le moine, c'est traduit à peu près comme le moine, en fait c'est le dévot, c'est l'adorateur. Il s'agit ici de leurs exemples qui sont les rabbins et les moines. Allah Azza wa Jalla a dit de ces gens-là qu'ils les ont pris comme seigneurs en dehors d'Allah. Wal'iyadhu billah. Ils ont donc fait d'eux des égaux avec Allah. Wal'iyadhu billah. Et l'explication de ce verset a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au compagnon Adi ibn Hatim al-Ta'i radiallahu anhu, qui lui était chrétien autrefois. Et a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce verset a nécessité de sa part la demande de sa compréhension. Il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ya Rasulallah, lasna na'buduhum, ô messager d'Allah, nous ne les adorons pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ N'est-ce pas qu'il déclare illicite ce qu'Allah a rendu licite, puis vous-même le déclarez illicite? قال بلى. Il répondit, si. قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ N'est-ce pas qu'il déclare licite ce qu'Allah a interdit, puis vous-même vous les suivez dans cela, et donc déclarer licite ce qu'Allah a interdit? Qala bala, il répondit si. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, fatilka ibadatuhum, voici leurs adorations. Et le Cheikh Saleh Al-Fawzan a cité dans son commentaire que suivre celui qui déclare licite l'illicite, ou alors illicite ce qui est licite, en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, lui avouer une forme d'adoration qui est ta'a, qui est l'obéissance. Mais sachez que pratiquement chaque verset qu'il y a dans ce chapitre a un chapitre indépendant qui arrivera bientôt dans le livre. Mais ici, l'auteur a voulu d'abord donner un aperçu avant d'approfondir et de détailler.
والشاهد من الآية للباب أنها دلت على أن من معنى لا إله إلا الله أن لا يطاع إلا الله سبحانه وتعالى، وأن من أطاع أحدا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربا من دون الله.
كلا résumé ce que vous venez d'entendre. لكن
إذا كان يعتقد أن تحليل الحرام وتحريم الحلال أمر جائز فهذا شرك أكبر يخرجه من الملة. أما إذا لم يعتقد جواز هذا بل يعتقد أن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى ولكنه فعله من باب الهوى أو من باب تحصيل بعض المصالح فهذه معصية عظيمة لكنها لا تصل إلى حد الشرك الأكبر. فطاعة المخلوقين في تحليل الحرام وتحريم الحلال لا تجوز أبدا لكن فيها تفصيلا من حيث الكفر والشرك وعدم ذلك.
Puis le cheikh, et ça c'est ce qu'on verra plus en détail plus loin inshallah, a apporté un élément absolument important. Il dit, mais si l'individu qui fait ce qui est interdit ou qui délaisse ce qui est obligatoire, et qu'il, donc l'individu qui fait cette chose ici, qui rend licite l'interdit, illicite ce qui est prescrit par Allah Azza wa Jal, il fait ça en croyant qu'il est permis d'agir ainsi, c'est là qu'il s'agit de la mécréance majeure qui exclut de l'islam. Par contre, s'il agit ainsi par faiblesse, par suivi de passion, et si tu lui dis, tu sais très bien que c'est interdit par Allah, il dit, oui je sais, à ce moment-là, c'est un pécheur, un grand pervers, mais il n'a pas atteint le niveau qui le fait sortir de l'islam, et ça viendra dans le chapitre plus loin, Inch'Allah ta'ala. Donc ce verset nous montre l'explication du tawhid, et que le tawhid c'est aussi d'obéir à Allah dans ce qu'il a prescrit, dans ce qu'il a légiféré et dans ce qu'il a interdit, subhanahu wa ta'ala, et quiconque obéit à un autre qu'Allah dans ce qu'il aura prescrit aura donné à Allah un égal, subhanahu wa ta'ala, et cela viendra inshallah plus en détail. Le verset suivant,
wa qawlih, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ.
Dans sourate al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de ces gens-là et nous dit, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Et les croyants sont plus ardents dans l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il s'agit ici, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, wa min an-nas, et parmi les gens, c'est-à-dire une catégorie de personnes. Qui est cette catégorie de personnes? Ce sont al-mushrikun, les polythéistes. Parmi les gens, il y a des polythéistes. Comment est-ce que ces gens agissent?
من يتخذ من دون الله أندادا.
Il en est qui prennent des égaux en dehors d'Allah.
من دون الله يعني غير الله, c'est-à-dire autre qu'Allah.
Ils font d'eux des égaux à Allah. والعياذ بالله.
Et le terme أندادًا, أنداد, c'est un pluriel.
C'est le pluriel du mot niddun.
Et niddun, c'est al-shabih, al-nadhir, al-mathil.
C'est le semblable, l'égal, etc. Donc ces gens-là ont pris en dehors d'Allah des égaux.
Allah n'a pas d'égal, tabaraka wa ta'ala.
Mais eux les ont jugés par leurs actes. Égaux à Allah. Wal-iyadu billah.
Yuhibbunahum ka hubbillah. En les aimant comme on aime Allah.
Le Cheikh Salih Al-Fawzan a dit que ces gens-là aiment Allah.
Ce sont des polythéistes
qui ont partagé leur dévotion, leur adoration entre Allah tabaraka wa ta'ala et ses créatures. Ils aiment Allah, ils l'adorent de temps à autre, mais le problème c'est qu'ils adorent autre aussi.
Par exemple, le peuple de Quraysh,
n'est-ce pas que ce peuple accomplissait le pèlerinage à sa manière, certes, mais il l'accomplissait d'une manière. Il faisait les tawaf, circumambulation, les tours autour de la Kaaba. Ils invoquaient Allah quand ils étaient pris par les vagues en mer, etc. Mais ils donnaient des égaux à Allah en même temps. Et c'est pour cela qu'Allah, Azza wa Jalla, les a blâmés. Donc ici, il s'agit de gens qui aiment Allah. Et qui aiment autre qu'Allah aussi. Et les aiment comme ils aiment Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit dans son commentaire, dans les Masail de Kitab al-Tawhid, que ces gens-là aiment énormément Allah. Et ils aiment énormément aussi leur divinité. Et à cause de cela, ils sont des polythéistes. Wal'iyadu billah. Parce que cet amour n'est pas le véritable amour. Ce n'est pas l'amour qui est recherché. Qui est demandé par Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils ont donc été blâmés et ont rejoint le rang des polythéistes. Wal'iyadu billah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Et ceux qui ont cru, les croyants, ceux qui ont eu la foi, sont plus ardents dans l'amour d'Allah. Ils les aiment plus. Ils aiment Allah plus que les polythéistes l'aiment. Pour quelle raison ? Les polythéistes ont partagé leur amour entre Allah et ses créatures. Les monothéistes ont rendu cet amour exclusivement à Allah. Il est donc plus fort, il est plus intense, il est plus ardent. Et c'est la base même du tawhid que d'aimer Allah. Plus que tout, seul et sans associé. Subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Salih Al-Fawzan a dit « فَدَلَّتِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ » على أن من تفسير لا إله إلا الله وتفسير التوحيد إفراد الله بالمحبة وأن لا يحب معه غيره محبة عبادة بل يفرد الله جل وعلا بالمحبة ولا يحب معه غيره محبة العبادة.
Ce verset montre que parmi l'explication, la compréhension du tawhid de la ilaha illallah, le fait d'unifier Allah dans l'amour qu'on lui voue,
subhanahu wa ta'ala,
et que nul autre que lui ne doit être aimé par cet amour qui est une adoration. On ne parle pas de l'amour naturel, l'amour du père pour son fils, de la mère pour son enfant. On parle de l'amour de ibadah qui est une adoration et qui a un chapitre dans ce livre, insha'allahu ta'ala. C'est donc Allah seul qui doit être adoré comme cela, l'amour de l'adoration.
Et enfin, l'auteur a conclu ce chapitre par ce hadith. Ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuh wa hisabuhu ala Allahi azza wa jal » Dans le sens rapproché de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit « La ilaha illallah » et renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang deviennent sacrés et c'est à Allah de le juger. Subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce hadith? Que la simple prononciation de la ilaha illallah n'est pas suffisante pour que les biens et le sang de la personne ayant prononcé cette parole devienne sacré. Il faut ajouter à cela une chose indispensable qui est ce qui implique la ilaha illallah, de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, de renier l'adoration de tout autre qu'Allah, toute forme de polythéisme, toute forme d'acte annulatif de la ilaha illallah. Cheikh Abdelrazzaq al-Badr a dit, est-il suffisant de dire la ilaha illallah, puis d'aller adorer un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala? Est-ce que la simple prononciation de cette parole est suffisante? Cheikh Al-Fawzan a dit, c'est une grande réponse dirigée à ceux qui ont émis une ambiguïté. Ils ont dit, pourquoi taxez-vous ces gens de polythéistes, les adorateurs de tombes, ceux qui se rendent vers les sorciers, les devins, ceux qui croient qu'autre qu'Allah peut connaître l'invisible, ceux qui croient qu'autre qu'Allah peut guérir, peut accorder la subsistance, etc. Ils ont blâmé Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, à son époque, et lui ont dit, comment te permets-tu de taxer ces gens de polythéistes alors qu'ils disent la ilaha illallah? La réponse est ici, et dans d'autres textes, bien sûr. Il ne suffit pas de dire la ilaha illallah, mais il faut renier l'adoration de tout autre qu'Allah. La yakfi an taqul la ilaha illallah. Taqul la ilaha illallah wa ta'bud al-qabr wa ta'bud an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ta'bud malakan min al-mala'ika wa tuwajjihu qalbaka ila ghayri Allah ka tawjihika qalbaka ila Allah azza wa jalla. La yakfi hadha. Ça ne suffit pas de prononcer puis d'aller invoquer un autre qu'Allah. Allah, il y a des gens qui disent la ilaha illallah du matin au soir, alors qu'ils n'ont jamais connu la ilaha illallah. Ils ne sont jamais entrés dans la ilaha illallah. Il dit la ilaha illallah, et pendant qu'il dit la ilaha illallah, dans son cœur il y a Tijan, et il y a autre. Ce sont que des exemples, il y a beaucoup d'autres noms, et dans un chapitre on s'étalera peut-être sur ces exemples, sur les endroits, sur les toutes ces choses-là, Inch'Allah ta'ala. Donc, il faut aussi renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Le Cheikh a dit, Hurmatul mali wa dam ala shay'ayn. Ay mashrutun bi shay'ayn. Al-shay'u al-awwal an yantiqa bi kalimati la ilaha illallah. Al-shay'u al-thani an yakfura bima yu'badu min dunillah. فإذا تحقق هذان الشيئان حرم ماله ودمه لأنه صار مسلما والمسلم يحرم دمه وماله. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rattaché, a conditionné le caractère sacré des biens et du sang par deux choses. La première, prononcer la ilaha illallah. La deuxième, mais croire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Si ces deux choses sont réalisées, si elles sont concrétisées, alors l'individu deviendra musulman, ses biens et son sang deviendront sacrés, comme c'est le cas du musulman. Il dit « wa hisabuhu ala Allah » et c'est à Allah de le juger. Cheikh Abdelrazzaq al-Badr a dit « هذا دليل على أن لنا الظواهر والله يتولى السرائر » C'est une preuve que ce qu'il nous incombe, ce qui nous concerne, nous, c'est ce qui est apparent. Quant à l'intérieur, c'est à Allah de le juger. Subhanahu wa ta'ala. Donc nous, on juge sur l'apparent. L'intérieur, ensuite, c'est entre la personne et Allah. Mais celui qui dit la ilaha illallah et qui manifeste, hein, qu'il se désavoue, qu'il renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, on se conduit avec lui comme on se conduit avec un musulman. Après, est-ce qu'il est véritablement musulman ou non? Est-ce qu'il est hypocrite? C'est à Allah de le juger. Subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est ce qui est tiré de ce récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Fawzan a dit, ce hadith nous montre que le sens de la que parmi les sens de la ilaha illallah, mais croire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. car la simple prononciation. Puis, aller adorer autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme les tombes, comme les pieux, comme les mausolées, etc. Une telle personne n'a pas renié tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tabaraka wa ta'ala n'a donc pas concrétisé la parole la ilaha illallah.
فهذا الحديث عظيم جدا وهو حجة للموحدين على أصحاب الشبه والمشركين الذين يقولون من قال لا إله إلا الله فهو المسلم ظاهرا وباطنا ولو فعل ما فعل يعبد القبور ويذبح للأولياء والصالحين ويعمل السحر والشعوذة ويعمل كل شيء هو مسلم حقا ما دام يقول لا إله إلا الله.
هذا الحديث رد على هذا القول الباطل. Ce hadith est donc une réfutation à cette prétention qui est celle de dire que celui qui dit « La ilaha illallah » c'est suffisant pour qu'il soit croyant, peu importe ce qu'il fait, qu'il se dirige vers une tombe, vers l'adoration d'un autre qu'Allah, d'un ange, vers la sorcellerie, les devins, les sorciers et toutes ces autres choses qui auront leur chapitre au moment venu, incha'Allah ta'ala. Puis le shir a conclu ce chapitre en disant « Wa sharhu hadhihi at-tarjama » ما بعدها من الأبواب. C'est-à-dire que l'explication de ce qu'il y a dans ce chapitre, c'est tout ce qui va venir dans les chapitres suivants. Et à partir du chapitre suivant, nous allons entrer, inshallah, dans les questions du shirk et du tawhid en profondeur. Maintenant, le shirk a terminé les conclusions qui avaient la plus grande importance. Et il va entrer dans le vif du sujet en citant avec les versets et les hadiths des catégories, des formes de polythéisme qui peuvent être majeures, qui peuvent être mineures, des formes de mécréance, des actes annulatifs de la ilaha illallah. Car il y a deux manières d'apprendre le tawhid. Ta'allumu al-tawhidi bi-haddi wa ta'allumu al-tawhidi bi-diddi. Apprendre le tawhid par sa définition et apprendre le tawhid par son contraire. Nous venons de passer les hadiths, les chapitres où on nous a enseigné le tawhid par sa définition. On a vu les termes tawhid, d'où il est issu, qu'est-ce qu'il signifie, qu'est-ce qu'il veut dire. Ça, c'est apprendre le tawhid par sa définition. Si je te dis, on ne doit invoquer qu'Allah seul. On ne doit prier que pour Allah seul. Le tawhid consiste à n'adorer qu'Allah seul. عَرَّفْتُ التَّوْحِيدَ بِحَدِّهِ. J'ai à ce moment-là défini le tawhid en donnant sa définition. Il y a une deuxième manière d'apprendre le tawhid. بِضِدِّهِ. Par son contraire. Car, comme a dit le poète, وَالشَّيْءُ يُظْهِرُ حُسْنَهُ ضِدُّهُ. La beauté de la chose est mise à l'évidence par son contraire. Et par leur contraire, les choses deviennent claires. Je te donne un exemple qui va te faire comprendre cela très rapidement. Comment tu as pu savoir que telle personne est belle? Car tu as vu avant elle d'autres qui sont moins belles. Comment tu as pu savoir que ce plat est bon? Tu l'as comparé à d'autres plats qui ne sont pas bons, n'est-ce pas? C'est cette comparaison que tu as fait entre un plat que tu n'as pas trouvé bon et un autre que tu as trouvé bon qui t'a permis de voir que ce plat est bon, n'est-ce pas? At-tawhid, on l'apprend de deux manières. On l'apprend dans sa réalité, dans sa définition, et on l'apprend en voyant ce qu'est le shirk. Lorsque tu vas voir ce qu'est le shirk, sa gravité, ses effets néfastes, ses conséquences, la colère d'Allah qui l'engendre. Tu vas voir de l'autre côté sa beauté, sa splendeur, ses mérites, la satisfaction d'Allah, la récompense d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et vous allez voir que le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, dans cet écrit Kitab al-Tawhid, dans la majeure partie en réalité des chapitres qu'il va traiter ici, il va enseigner le Tawhid par le contraire. Et il va pratiquement parler que de shirk pour comprendre que le tawhid c'est le contraire de cette chose. Et ça montre que Ahlus Sunna détaille dans da'wa. Ils ne disent pas que sunna, ils disent bid'a aussi. Et ils montrent Comment tomber dans la bid'a? Comment s'en sortir? Comment s'en préserver? Et c'est que, en connaissant ce qu'est la bid'a, que tu vas connaître parfaitement la sunna. Et ce n'est que quand, en connaissant ce qu'est shirk, que tu vas connaître le tawhid. Pour ça que la personne qui dit, ça ne sert à rien d'apprendre shirk, vous ne faites que parler du shirk et des tombes. Wallah et par Allah, tu vois que c'est ce genre de personne qui tombe le plus dans le shirk. Les gens qui disent, ça ne sert à rien de dire tout le temps, bid'a, 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 wallah illazi la ilaha ghayru, c'est ce genre de personne qui tombe le plus dans les bid'a. Des petits, des plus grands, des plus graves, etc. Car ils ne sont pas à la jaddatil ulama, sur le droit chemin des savants de l'islam, les héritiers des prophètes. Et c'est le but de cet écrit, Kitab al-Tawhid, wa sharh hadhihi at-tarjama ma ba'daha min al-abwab. L'explication de ce chapitre, c'est ce qui va venir dans tous les autres chapitres, inshallah ta'ala. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.